On a parlé du fait que les cultes, les religions sont invitées à sortir de la salle, sortir de la société, de la visibilité de la société. Donc la question, c'est justement cette question de la place en tant qu'institution ou en tant que notre place dans la société. Voilà. Comment réparer justement cette invitation à sortir de la société et en même temps, ce n'est pas possible, on en fait partie. Donc comment faire? Quelle est la réponse?
Première question, Guillaume.
Donc je vais faire court et je vais rebondir sur ce que disait Nadia. Est-ce que le contrat d'engagement républicain fait partie de cet effacement de la religion dans la société?
Il n'y a pas de résine, tu disais fort, pas de résine.
Bah moi, elle porte assez ta question. Est-ce que la loi séparatisme ne participe pas à l'évincement aussi du religieux ou des religions?
Voilà trois questions. Premier pack.
Et qui vont dans le même sens, donc ça m'arrange. Je prends la question du milieu, enfin, le contrat d'engagement républicain, et dans le texte de la loi, est une injure faite aux associations qui par définition sont républicaines, puisque justement elles s'inscrivent dans le cadre républicain. Pourquoi faudrait-il que les religieux fassent plus que les autres? Vraiment, ça a été perçu par moi, mais par les protestants, qui sont peu soupçonnables d'être anti-républicains quand même, comme une espèce d'injonction à être plus royaliste que le roi. Enfin, je fais la blague exprès, mais enfin, plus républicain que les républicains. C'est incompréhensible. Et là, le législateur, vraiment, a été très maladroit. Très maladroit, on l'a dit. Et donc, pour répondre aussi à votre question, la place des religions, cette expression-là même est un oxymore. Hein, et vous avez raison de le dire. Les religions ont de toute façon toute leur place. La loi de 1905 est une loi qui a été... édicté le 9 décembre pour permettre l'exercice public du culte. L'exercice public du culte. Alors que nous entendons assez régulièrement des élus de la République, et parfois même des ministres, dire que les cultes n'ont qu'à se faire en privé. Alors qui est républicain dans l'histoire ? C'est ces élus de la République ou bien c'est ceux qui assurent leur légitimité au nom de la loi en célébrant publiquement leur culte? Là, il y a un vrai défi national. Je crois que la France ici, enfin oui, les Français, on va dire comme ça, et je m'y mets, hein, les Français ont un problème avec la religion et qui remonte sans doute... à une mécompréhension, c'est pour ça que j'insiste sur la signification des mots, à une mécompréhension de ce qu'est la religion. On a confondu la religion et le rite en France, ou on a confondu la religion et un culte. Au fond, c'est l'historien Émile Poula qui dit « La loi de 1905 a fait passer la France de la catholicité à la laïcité. » Et c'est très juste. C'est-à-dire que la laïcité a mis à équidistance de la loi tous les cultes. D'ailleurs, cette loi de 1905, d'une certaine manière, a promu l'écuménisme. Elle a mis au même plan l'évêque, le pasteur, le rabbin, l'imam, etc. C'est sans le vouloir, si vous voulez, ou peut-être en le voulant, le législateur a permis, au fond, la relative entente entre les religions au sein de la République. Et cette nouvelle situation... est en train de riper maintenant parce que la thématique de la laïcité est utilisée, alors je vais le dire de manière un peu rapide, mais contre un culte, c'est l'islam. Et par ricochet d'ailleurs, les évangéliques. Là, nous avons des témoignages. Vous savez, les évangéliques qui vont voir le maire et qui disent « on aimerait avoir une salle de prière, un temple, parce que nous sommes... nous sommes 200, 250, et bon... alors là, la commune est habilitée, elle a la possibilité de mettre à disposition des cultes, des salles municipales. Mais ça ne marche jamais. parce que l'argument qui est renvoyé, c'est si nous mettons à disposition des évangéliques une salle, demain, c'est les musulmans qui vont nous la demander. Alors évidemment, les évangéliques se retournent vers la fédération en nous disant, mais voilà, la mairie a dit non. Et on dit, quel est l'argument? Eh bien, c'est que s'ils disent oui aux évangéliques, ils vont dire oui aux musulmans. Eh bien oui, mais qu'ils disent oui aussi aux musulmans. C'est ça la République. Donc là, il y a une vraie problématique, c'est pour ça que je parlais de problématique, où il ne s'agit pas de dire on est pour ou contre l'islam, ou on est pour ou contre les évangéliques. D'ailleurs, je vous ai dit tout à l'heure que le danger évangélique ou le danger musulman, il faut arrêter. Il y a un danger, effectivement, d'instrumentalisation politique du discours évangélique, ça c'est indéniable. Et il y a un danger pour les musulmans de se laisser entraîner sur des voies politiques et violentes. C'est indéniable. Mais là, on parle de culte. Et donc, quand on parle de culte, on parle de ce que je vous ai dit tout à l'heure, d'hospitalité, de lieu d'accueil, de rencontre, de réflexion, de prière, d'adoration, d'intelligence. C'est de ça que je parle, moi, quand je parle de culte devant les autorités. Et je pense que nous sommes, là aussi, amenés à, dans nos réflexions, à interpeller nos interlocuteurs là-dessus, en leur disant que la religion, ou la place des religions, comme vous dites, c'est quelque chose d'éminemment républicain. Ça n'est pas du tout une concession de la République aux religions. L'article 18 de la loi 1905 établit l'exercice public du culte. Vous n'allez pas me faire réciter la loi de 1905, parce que à force, j'ai failli la connaître par cœur. Elle est longue, hein. Mais c'est vrai que c'est incroyable comme ce texte est équilibré. Et finalement, assez libéral dans sa manière de comprendre une république neutre au plan confessionnel, mais qui va permettre de gérer une pluralité des spiritualités ou des convictions. Et ce qui s'est produit, je pense, c'est qu'en déniant cette complexité du sujet, on s'est focalisé dans le débat sur le cadre, la laïcité. Et je prends cette analogie parce qu'elle elle me parle, je pense qu'elle peut vous parler. Quand vous allez dans un musée, vous regardez un tableau. Il est vrai que si le tableau n'a pas de cadre, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez ce que je veux dire? D'abord, on a du mal à l'accrocher, on le met à l'envers. C'est le fameux tableau de Mondrian qui n'avait pas de cadre et on ne savait pas dans quel sens. Donc, il faut un cadre pour que le tableau soit mis en valeur. C'est-à-dire que la vie du tableau puisse exister dans les yeux du spectateur. Mais quand on fait une visite d'un musée, on ne parle pas tellement du cadre. On peut dire, oui, tiens, il est très bien encadré, c'est un cadre d'époque, enfin, il est un beau cadre du 18e, bien doré, c'est peut-être même tel ébéniste qui l'a fait, ok. Mais l'important, c'est le tableau. Eh bien, de la même façon, la laïcité, c'est le cadre, c'est un principe républicain, la laïcité. C'est pas une valeur, c'est un principe. Ça n'est pas une valeur, c'est-à-dire quelque chose qui pourrait être tordu, utilisé à des fins autres que ce pourquoi il est fait. C'est un principe républicain qui établit le cadre dans lequel s'expriment les convictions des uns et des autres. Et la société, donc, n'est pas laïque. Le cadre, oui, mais pas la société. Ou alors, il n'y a plus de tableau. Vous voyez l'analogie, enfin, je suis un peu lourd, mais vous avez, je pense, compris ce que je voulais dire. Je pense que ça répond aux trois questions que vous avez posées.
Trois autres questions ? J'ai l'impression, bon, pour dire les choses, je suis théologienne protestante, je suis de confession grecque-orthodoxe, j'ai vécu en pas mal de pays. Bon, tout ce que je te tutoie parce qu'on a du soir à la fac de Montpellier il y a très longtemps, donc ça remonte très loin, oui. Bon. Donc voilà, donc tout ce que tu as dit, j'ai l'impression, moi, que c'est de tout temps, de toutes époques. C'est-à-dire cette diversité, cette relativité des religions, cette multiplicité, que ce soit dans les premiers siècles de l'Église, ou que ce soit, alors on peut parler de l'Europe, la postmodernité, mais bon, quand je suis en Afrique, parmi des tas de communautés de gens qui vivent comme ils peuvent pour survivre et puis qui ont des coutumes religieuses ou des croyances ou des façons de vivre totalement multiples et différentes. Enfin, je vois pas tout ce que tu as dit de la postmodernité. Pour moi, ça tient pas. C'est de tout temps. L'humanité, elle est multiple partout. En Inde, depuis des millénaires, il y a une diversité, etc. Donc moi, j'ai aucun souci, aucune inquiétude, rien. Et tant mieux si les riches blancs occidentaux crèvent, tout s'écroule, parce qu'il y en a marre qu'ils détruisent la planète, l'urgence, c'est ça. Alors on s'en fout que les institutions religieuses croulent et autres. Les gens crèvent partout dans le monde, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'air potable, d'air respirable, etc. Et la vie, moi je crois en la vie, et étudier les religions, c'est une recherche de vérité. Pour moi, c'est des chemins de vie, si tant est qu'elles existent, ou qu'elles existent et quelles qu'elles soient. Des chemins de vie. Et on est, tous ensemble, donc quel que soit le pays, on est là pour retrouver des chemins de vie avant que tout soit foutu. Voilà. Enfin, c'est très maladroit la manière dont je le dis, parce que je suis émue, mais c'est... Voilà, je ne sais pas qui dit.
Une autre question ?
J'ai donc retenu qu'il y avait trois religions. Hein. Dieu à l'origine de tout, Dieu en moi, et puis la troisième, je suis plus vague, la fondamentale, qui finit par le fondamentalisme. Alors, est-ce qu'on pourrait... Est-ce que j'espère que c'est peut-être bien qu'on ait un petit peu des trois. Voilà. Comment il faut le vivre ?
Alors moi, c'est juste des remarques et pas des questions. Alors, j'avais un point qui est... D'accord. Alors, c'est juste des remarques et pas une question. Alors, j'allais terminer par la même remarque que madame, par rapport à la définition du culte que vous avez fait, que vous avez séparé en trois définitions. Et moi, j'étais parti sur la même idée, en fait, que pour moi, la meilleure définition du culte, c'était ces trois définitions réunies. Et je pense que s'il en manque une des trois, c'est pas parfait et c'est voué à s'éteindre un jour ou l'autre, d'une certaine manière. Donc, je pense qu'il faudrait réunir ces trois définitions. C'était juste des remarques. J'ai très bien apprécié vos discours. J'ai vraiment pris du plaisir à vous écouter. Vous avez abordé des sujets très importants, dont malheureusement l'affaissement du culte et de la pratique générale dans le monde, on va dire. Alors ça peut être également une question, mais ça revient peut-être à la question de madame, qu'est-ce qu'il faut faire, tout culte confondu, pour redonner cette dynamique et relancer un peu la machine et la pratique du culte. Je pense qu'il y a des points principaux, c'est l'intégration des jeunes dans cette pratique. On a parlé de la disparition des repères. À la fin, vous avez terminé par dire que le culte, c'était l'endroit où les gens pouvaient justement échanger, etc. Donc je pense que vous avez quand même donné le repère qu'il faut garder. Donc le lieu de culte, à mon avis, est le meilleur repère, quel que soit le culte d'ailleurs. Et puis, vous avez aussi noté l'importance de se représenter dans un groupe. Enfin, le fait, peut-être, que la sociologue, ou je ne sais plus qui a donné l'idée que la pratique de soi-même pour soi était suffisante. Moi, je pense plutôt que cette pratique-là, elle est quand même vouée à s'éteindre, ou alors à adapter la pratique, à se l'adapter à notre mode de vie, hein, en changeant au fil du temps, comme ça nous arrange, quelque part. Si vous voulez, je vais en venir. Et puis, donc je pense au contraire que moi, il est important de se représenter dans un groupe, peut-être dans ces lieux de culte, et de vraiment essayer vraiment de faire le nécessaire pour être dans un groupe, quel que soit le groupe qu'on a, et pas s'isoler, une pratique auto n'est pas suffisante. Elle n'est pas auto-suffisante. Voilà.
Merci. C'est trois. De Badreddine. Une question ?
Une double question.
Ouais, je suis filou aussi.
Est-ce que, pour reprendre un petit peu ce que disait Nicole, l'écologie, la question écologique, ça ne sera pas une nouvelle religion ? Et est-ce qu'on n'a pas un gouvernement qui est religiophobe ? Et ce qui expliquerait pourquoi d'ailleurs il ne s'intéresse pas à la question écologique.
C'est intéressant parce que là on est sur, pour le coup, des questionnements assez différents par rapport à tout à l'heure où tout allait un peu dans la même direction. Alors je vais prendre... je ne sais plus dans quel ordre. Je vais prendre la question de la définition de la religion que j'ai donnée en trois thématiques, et j'ai parlé de type, hein, de type de religion. Donc je partage tout à fait l'idée qu'effectivement, nous sommes porteurs d'un peu de ces trois manières de vivre la religion. Simplement, lorsque nous insistons sur l'un de ces aspects de manière excessive, nous courons le risque de nous aliéner nous-mêmes, c'est-à-dire de ne plus être des religieux intelligents, hein, d'être peut-être tellement persuadés que Dieu est en nous, que nous le captons, que nous en sommes le maître, hein, et vous savez combien la maîtrise du sacré est une tentation humaine tellement grande que finalement il se prend au jeu, hein, l'humain, en faisant ça, et il se laisse lui-même justement maîtriser par le sacré. Enfin, c'est tout l'inverse qui se produit. Lorsqu'on est tellement dans une compréhension de la religion comme une proposition d'un message, on est en surplomb de soi-même et de la société, enfin, on est un peu donneur d'ordre. Or, la foi est quand même un élément de liberté, et non pas seulement un moment d'obéissance. C'est la fameuse voie de liberté de l'apôtre Paul, hein. Il y a quelque chose de paradoxal dans le croire. C'est à la fois, effectivement, l'obéissance à une parole, une doctrine, mais c'est aussi le lieu de la revendication d'une liberté imprenable. Et donc, voilà. Et puis le troisième risque, c'est lorsqu'on parle de la religion uniquement comme le rapport à un texte, et où là, finalement, on ne sort plus de la salle d'étude. On devient archéologue des textes, ou médecin légiste. On fait l'autopsie de textes. On ne fait que répéter, au fond, ce que nos anciens ont appris. On ne fait que redire, sans jamais oser en sortir, la parole de la tradition, des pères. Et donc là, il y a un vrai risque aussi de pétrification, de sclérose, que j'appelle le fondamentalisme. Et même avec la prétention d'être dans le vrai. C'est-à-dire que plus on remonte en arrière, plus on prétend dire le vrai, ce qui est une pétition de principe. Le salafisme, notamment, s'est engouffré dans cette brèche-là et empêche l'islam de se réformer, en prétendant à la vérité parce qu'elle serait la répétition la plus authentique possible des premiers récits ou des premières affirmations. De la même façon dans le judaïsme aussi, hein, la répétition à l'infini des sentences talmudiques empêche de sortir de là. Il y a des sorties de route salutaires. Et pour le christianisme, de même, la tradition, lorsqu'elle est simplement répétition de discours anciens, trahit au lieu de transmettre. Et c'est là que j'aimerais vous remercier d'avoir évoqué la jeunesse. Parce que c'est quelque chose que j'avais dans la 12e page que je n'ai pas, où je parle de cette fameuse panne de la transmission. Hein, c'est une expression que vous avez tous, j'imagine, en tête. Au fond, on pourrait dire que l'après-guerre a été le moment des premiers couacs dans le moteur de la transmission. Pourquoi l'après-guerre? Parce que précisément, la Shoah disqualifié théologiquement le discours chrétien. Elle a disqualifié, définitivement. Il y a eu des massacres avant, il y a eu des pogroms, il y a eu tout ce qu'on veut, enfin, dans le rapport au judaïsme, ça je sais qu'ici il y a des membres de la communauté juive, on ne va pas refaire cette histoire douloureuse, mais la Shoah a été quand même le moment de la disqualification du discours chrétien. L'institution n'est plus légitime pour porter une parole d'amour quand elle s'est laissée instrumentaliser à ce point-là. Et donc la transmission ne pouvait plus se faire, de manière tout à fait lisse et tranquille. La Première Guerre mondiale avait préparé cela. Vous vous souvenez quand même des prédications, enfin je ne sais pas si vous les avez lues d'ailleurs, mais les prédications des pasteurs allemands et des pasteurs français 1914-1915, c'est, quand on lit ça, on se dit, mais c'est terminé, quoi. On s'est laissé embarquer. Et les professeurs de théologie aussi. Et alors, du côté catholique, je connais moins, mais j'imagine que ça avait aussi résonné de manière extrêmement conflictuelle entre un prêtre allemand et un prêtre français qui se retrouvent ou qui prêchent dans leur paroisse. Mais que vont-ils prêcher? Et en 45, que dire aux enfants? Donc la crise de la transmission a été redoublée avec ces deux guerres mondiales. Elle a été fracassée avec ce que j'appelle donc, ce que nous appelons la postmodernité, précisément, où les institutions n'ont plus été à la hauteur pour assumer cette crise de la transition. Et du coup, c'est plus une crise, c'est devenu une panne. Et les enfants n'ont pas reçu le message. Ils n'ont pas reçu, dans les deux sens du terme, c'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas reçu physiquement parce que on les amenait plus au caté, mais ils ne l'ont pas reçu parce que c'était irrecevable. C'était irrecevable. Un peu comme la génération 68 a considéré qu'elle avait été trahie par les pères qui avaient fait qui avaient trahi pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui en plus avaient fait la guerre d'Algérie. Il y avait de quoi quand même ne pas recevoir la parole des anciens. Cette crise de 68 est une crise aussi de la transmission au plan de la société tout entière. Ce que je veux dire par là, c'est que la panne de la transmission nous met dans une situation où la jeunesse aujourd'hui, qu'il faut effectivement prendre avec soin, ne reçoit pas, au sens, vous savez, qu'on ne reçoit pas, on vous reçoit 5 sur 5, là c'est même pas 1 sur 5. Je ne vous reçois pas, nous disent-ils. Et le catéchisme ne mord plus. Hier soir à Colmar, j'ai évoqué la question du catéchisme. Vous savez qui a inventé le catéchisme? C'est Martin Luther. Il invente le catéchisme, et vous savez pour qui? Pour les pasteurs. Et puis après, pour les enfants, les ados. Mais c'était un catéchisme d'adultes où il fallait savoir répondre aux questions posées. Et quelqu'un dans la salle, hier soir, s'est exclamé, c'est comme si j'avais, vous savez, touché sans faire exprès un point. Mais c'est ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que le catéchisme que cette personne avait vécu, c'était répondre à des questions préparées, donc non pas ses réponses, mais dire les réponses du catéchisme. Alors, là, cette panne de la transmission, on y est toujours, hein, on est en panne. Et alors, la question, c'est... Alors après, j'arriverai à la question sur la postmodernité. Ça n'a pas toujours été comme ça. Parce qu'aujourd'hui, ces enfants sont seuls et sont des proies faciles, laissées à tout vent de doctrine. Vous allez sur Internet et vous vous faites... Alors, je ne sais pas si vous le faites... Si vous êtes costaud, faites-le, mais si vous n'êtes pas trop costaud, n'y allez pas. Mais vous pouvez vous laisser embarquer par des discours sur Internet. C'est très facile, hein. Et je vous promets, ils répondent à vos questions, hein. Vous êtes mal dans votre peau, vous ne savez pas très bien comment faire. Vous avez 1000 questions, ils ont les réponses. Et vous êtes embarqué. Et à 13 ans, 14 ans, 15 ans, seul dans sa chambre, le soir, il n'y a personne, les parents ne sont pas là, ou ils s'occupent pas de ça, vous êtes embarqué. Donc, la postmodernité crée cette situation de grande solitude. Et c'est là où je réponds maintenant à la question sur la postmodernité, comme, selon laquelle, au fond, ça a toujours été comme ça. Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. La pluralité confessionnelle n'existait pas. L'Europe n'était pas pluriconfessionnelle. Il y avait même le grand débat entre le Turc et l'empereur. C'était ou le christianisme ou l'islam, mais c'était pas les deux. Vous savez, le fameux chant protestant à une Festburg ist unser Gott, créé en 1526. Au moment où le Turc, justement, assiège Vienne. C'est ça le chant, le cantique de la Réforme. Dieu est une forteresse contre le Turc qui assiège Vienne. Vous comprenez que on n'est pas du tout dans la pluriconfession, dans le relativisme, dans le mélange des genres, etc. On est dans la défense des principes politiques, impériaux, seigneuriaux, et des villes libres de l'Empire, ou du Royaume de France, ou du Royaume d'Angleterre, contre la menace venue d'ailleurs. Et ceux qui font les frais de ces grands conflits, ce sont les minorités. C'est les sorcières, les juifs, les vaudois, et puis peut-être un peu les protestants après coup, mais c'est véritablement quelque chose qui bouge comme une plaque tectonique très lentement, et puis qui aboutissent, comme je l'ai dit au début de mon propos, par ces fameuses guerres civiles où tout va péter, et où l'unité de l'Église va exploser, mais l'unité des empires aussi. Et finalement, apparaît à ce moment-là la possibilité d'un espace public qui ne soit pas saturé par le politique ou par le religieux, et c'est la démocratie. C'est à ce moment-là qu'apparaît la démocratie. C'est le moment où alors c'est encore des sujets du roi, mais ce seront bientôt des citoyens qui vont donc dialoguer, parler de religion, alors qu'ils ne sont ni évêques, ni prêtres. C'est la sécularisation de la théologie. Quand des princes allemands commencent à faire de la théologie, vous imaginez, à la Réforme, ce qui se passe, des seigneurs, des rois qui se mettent à des petits nobliaux du bas de Württemberg qui se... Enfin, je fais attention parce que quand on parle de Württemberg ici, il faut faire très très attention. Mais quand même, c'est de ça qu'il s'agit. Ce sont des laïcs qui se saisissent de questions théologiques. C'est une sécularisation en route du discours religieux. C'est la première fois, si vous voulez, que le débat sort de l'Église. Il n'est plus capté par les clercs. Et comme je disais, l'avenir des clercs s'assombrit. C'est bien ça, c'est une captation d'héritage par l'ensemble de la population. Tout le monde peut prendre part au débat. Ça, c'est quelque chose qui est documenté, daté, vérifié. Ça n'a pas toujours été comme ça. Et de la même façon, alors puisqu'on parle d'autres continents, en Afrique notamment, les royaumes et les petits États ne sont absolument pas pluriconfessionnels. Au contraire, ils sont liés à la religion du prince, du roi, du chef, etc. Donc on n'est pas du tout dans le relativisme tel que la postmodernité l'établit aujourd'hui. Et enfin, un certain nombre de valeurs que l'on croyait établies pour toujours sont mises en question. Alors là, je donne un exemple que je trouve aussi très parlant parce qu'il nous concerne, j'allais dire, toutes et tous. C'est la question du divorce. Enfin, qui nous concerne toutes et tous, entendons-nous. Le mariage est une invention de l'Asie. C'est l'alliance des familles, c'est l'alliance des villages, c'est une invention de l'Afrique. C'est la promotion socio-économique d'une famille, d'une tribu, d'un clan, avec un échange de biens, et dont les femmes d'ailleurs font partie. Et heureusement, parce que justement, c'est le capital qui est transmis, etc. Et puis il y a des contrats signés, il y a de l'argent échangé, et il y a une économie sociale qui est en route. Le mariage est une véritable institution sociopolitique et économique. L'Europe invente le divorce. Et ça n'est pas n'importe quelle Europe, c'est l'Europe puritaine, c'est l'Angleterre puritaine. Et pourquoi? Parce qu'elle considère précisément que Madame Smith, qui est battue par son mari, qui va voir le pasteur et qui lui dit « j'en peux plus, c'est un sadique, je ne peux plus vivre ma vie de femme dans ce contexte-là », est entendue par le mari, et qui, au nom de la responsabilité personnelle, de la liberté du sujet, va lui dire ben, « tu dégages, tu divorces ». C'est pas une histoire de morale, là, c'est une histoire de théologie. Tu es un sujet aimé par Dieu, en Jésus-Christ, tu es libre. Le mariage, t'es finalement une prison. Tu sors de cette prison. Et vous voyez, le puritanisme anglais, enfin le protestantisme anglais le plus étroit, produit paradoxalement une libération possible pour des gens qui se trouvent en situation de victime. Ce que je veux dire par là, c'est que les valeurs que l'on croyait établies s'éboulent au nom justement d'une compréhension d'un message ici, d'un texte, et c'est le texte biblique dont il s'agit là, qui finalement va promouvoir un changement complet dans les modalités de vie de tout un continent. Ça commence en Angleterre, puis après c'est partout. Et dernière question, c'est l'écologie. Bien sûr que oui, la lecture intelligente des textes bibliques est devant nous concernant ce défi écologique. De la même façon d'ailleurs que la lecture du Coran, qui contient beaucoup de choses encore insoupçonnées sur le rapport entre la création et la responsabilité humaine. Nous avons lu et relu Genèse 1 et Genèse 2 sur la thématique du péché, de la faute, du mystère, de la création, de la liberté, etc. Enfin bon, ouais, mille choses. Mais nous n'avons pas lu tout le reste, tous les psaumes, toute l'histoire d'Israël, l'Exode, toute cette histoire qui a mis en route un peuple au sein d'une création qui commence dans un petit jardin d'Éden et qui se termine par une ville, la Jérusalem céleste, et donc qui assume finalement à la fois la ruralité et la citoyenneté dans une cité, Jérusalem, et donc qui assume au fond une création bonne. Et donc nous avons encore à lire les textes bibliques sous la contrainte des changements climatiques pour découvrir les ressources que contiennent ces textes bibliques que nous avons pas encore assez lus sous cet angle-là. De la même façon, et je reviens sur le dernier point, puisque j'ai parlé du mariage pour tous tout à l'heure, qui aurait imaginé que des églises se mettent au travail sur la question de l'homosexualité en travaillant les textes bibliques? Alors là, je sens qu'il est tard et que je ne voudrais pas me fâcher avec 43% de l'Assemblée. N'empêche que des églises sont allées jusqu'au bout, alors là, ce n'est pas simplement en France, mais c'est partout dans le monde, en regardant comment les textes parlent de sexualité, d'homosexualité, du couple, de la fidélité, etc., et comment, devant les évolutions législatives des différents pays, ces églises ne restaient pas muettes, ni en retrait, mais pouvaient devenir proactives en disant, mais après tout, les textes bibliques ne sont pas des obstacles devant ces évolutions et peuvent nous aider à mieux comprendre. Alors j'emploie un mot théologique, la volonté de Dieu pour l'humain, qu'il soit homme ou femme. Et c'est ce qui s'est passé dans beaucoup de pays en Europe, aux États-Unis, en France, plus récemment, puisque c'est 2013, 14, par là. Mais vous voyez comment les textes bibliques, qui sont effectivement arrimés à ce que j'appelle moi la religion, peuvent être aussi des ressources libératrices sur ces différents sujets, éthiques, politiques, sociopolitiques ou écologiques.
Oui. Alors, je ne vais pas jusque-là. Je ne vais pas jusque-là. D'abord, l'utilisation du terme phobie, enfin, c'est toujours compliqué. Hein. Parce que phobie, ça veut dire la crainte. Hein. C'est la crainte. C'est pas la haine, c'est la crainte. Alors, est-ce que l'État craint les religions? Non, l'État est neutre. La République est, j'allais dire, non concernée, si vous voulez, en tant que telle. Elle a à gérer, selon les critères de l'ordre public, les expressions religieuses des citoyens. Voilà.
Donc il n'y a pas de religiophobie, ça je le récuse. Ce qui se passe, je crois, aujourd'hui dans cette fameuse postmodernité, c'est que une représentation nationale constituée de personnes qui précisément ont été, d'une façon ou d'une autre, victimes de cette fameuse panne de la transmission dont je parlais tout à l'heure, qui ne sont donc pas affiliées, qui n'appartiennent pas à des instances religieuses, à des institutions, ils ne sont plus membres d'église. Trouvez-moi les députés catholiques pratiquants, c'est compliqué. Alors je sais qu'il y a un aumônier de l'Assemblée, il y en a même un évangélique, c'est, là aussi c'est une espèce d'aberration. L'Assemblée nationale n'est pas un EHPAD, enfin on ne va pas mettre un aumônier. Et donc c'est cette représentation nationale ne prend pas à cœur la question de la défense de la liberté de conscience et de culte, parce que ce n'est pas son sujet, en vérité. Il y a la loi qui est déjà faite, celle de 1905. Et enfin, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans nos sociétés, ce n'est pas spécifique à la France, une angoisse, une petite angoisse, une petite musique qui fait penser à ce qu'on vit, vous savez, dans la fièvre optimale. On a l'impression d'être menacé par quelque chose, un danger, on n'arrive pas à le définir, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc on va chercher le coupable. Et le coupable, c'est évidemment celui qu'on connaît le moins, c'est la religion. Celui dont on a dénié l'importance, le fait religieux dont on a dénié l'importance. Parce qu'il est structurant en humanité. Et nous avons une déclinaison assez étonnante en Europe de ce déni. Alors il y a des peuples où vraiment c'est le vrai déni. La France est un peu dans le déni sur ce sujet-là. Et d'ailleurs, alors je ne sais pas s'il y a des professeurs de l'université ici, mais c'est vrai quand même que la philosophie française a été nulle, elle est nulle là-dessus. Elle n'a rien compris aux Lumières, on a enseigné, parce que je connais un peu quand même, elle a enseigné les Lumières en racontant des idioties, et puis alors tout ça aboutit, des espèces d'effets d'entonnoir, aux sornettes de Michel Onfray. Enfin, vous voyez, c'est en un raccourci, si vous voulez, en un raccourci terrible, l'université se concentre dans ce que raconte Michel Onfray, c'est-à-dire une extrême droite anti-religieuse. Et donc là, on est vraiment dans ce pays avec un problème dans l'université où la religion est un impensé. Voilà, on va dire comme ça, c'est un impensé. C'est péché, enfin c'est pas bien. La religion, c'est pas bien, en philosophie. Oubliant en cela que la philosophie naît de la théologie. D'où vient la philosophie? Elle vient du questionnement théologique. Mais ça, en France, c'est tabou. Mais d'autres pays ont un rapport au religieux tout à fait différent. Il suffit de traverser le Rhin, enfin, ou d'aller de l'autre côté en Suisse, en Allemagne, en Hollande, en Angleterre. Pas loin donc, pas loin quand même. Pour voir qu'il est possible de vivre le fait religieux de manière, alors pas complètement apaisée, parce que je vous ai dit, c'est un produit inflammable. Il y a toujours des conflits, mais de manière un peu plus intelligente. Et où l'on assume le fait que, le fait religieux a sa place dans la construction même de la citoyenneté. Et où le citoyen n'est pas une conception abstraite. Vous savez, le citoyen républicain français, c'est celui qui vote au municipal, aux législatives et aux présidentielles. Le reste du temps, il n'existe pas, il n'a pas de consistance. Demandez la définition d'un citoyen à un député, vous allez voir, il va être très ennuyé. Il va vous parler du vote. C'est tout ce qu'il va dire. Alors qu'un citoyen, il est aussi franco-suisse, italien, marocain, parce que dans sa famille, il y a tout ça. Et on rajoute africain, pardonne-moi, parce que, évidemment, la belle-sœur vient du Togo, ou de... Voilà. Il est un peu catholique, mais par sa mère, il est protestant, et un peu juif aussi, parce que, évidemment, on avait oublié, mais quand même, il y avait toute une tradition juive dans la famille. et puis franc-maçon, parce qu'il y en a un quand même qui supportait plus tout ça, et qui, et donc on a un mélange dans chaque famille, mais regardez dans vos familles, enfin, ou alors c'est pas dans quelle famille vous habitez, mais c'est incroyable la complexité de l'identité du citoyen. Et cette complexité identitaire, cette pluri-identité en vérité, empêche, à mes yeux, toute réduction, toute assignation à résidence à une confession. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, s'empêcher de penser le fait religieux, c'est s'empêcher de penser les évolutions de la société de demain. Parce que ce religieux se recompose, il sera donc différent demain, il sera peut-être multicolore, comme je l'évoquais pour la Fédération, en disant le protestantisme devient multicolore, non pas seulement au sens de la peau, parce qu'il devient africain de plus en plus, ou peut-être même asiatique, mais parce qu'il est aussi confessionnellement pluriel. Et cette complexité identitaire, cette pluri-identité en vérité, empêche, à mes yeux, toute réduction, toute assignation à résidence à une confession. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, s'empêcher de penser le fait religieux, c'est s'empêcher de penser les évolutions de la société de demain. Parce que ce religieux se recompose, il sera donc différent demain, il sera peut-être multicolore, comme je l'évoquais pour la Fédération, en disant le protestantisme devient multicolore, non pas seulement au sens de la peau, parce qu'il devient africain de plus en plus, ou peut-être même asiatique, mais parce qu'il est aussi confessionnellement pluriel. Et cette pluralité confessionnelle est une richesse. Donc la recomposition du religieux promet une société très différente demain de celle que nous vivons aujourd'hui. Et donc il faut l'anticiper, il faut le savoir, il faut, faut l'entendre, il faut le préparer, se préparer à cet avenir qui, sans cette préparation, va amener, alors comme le disait avec beaucoup d'inquiétude Olivier Abel lors du dernier rassemblement du musée du désert, donc au mois de septembre, d'autres Saint-Barthélemy. Vous imaginez la phrase qu'il a osé prononcer sur France Culture en plus, disant au fond, si nous n'y prenons pas garde, nous nous préparons des nouvelles Saint-Barthélemy. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'est pas que les catholiques vont tuer les protestants, d'ailleurs, Saint-Barthélemy, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est que l'impensé du fait religieux va nous amener à focaliser sur le fait religieux toutes les violences de la société. Or, nous savons aujourd'hui que les violences dans nos sociétés ne sont pas premièrement d'ordre religieux. L'élément religieux est présent, mais les violences ne sont pas premièrement d'ordre religieux. Et c'est souvent un argument qui est renvoyé par les tenants d'une certaine laïcité qui a du mal à penser le fait religieux, vous savez, en disant « mais c'est à cause des religions qu'il y a de la violence ». Il y a toujours eu des religions violentes, etc. Depuis le monothéisme, il n'y a que de la violence, etc. Mais ces personnes-là n'ont pas lu l'histoire. Et là, véritablement, je crois que nous devons nous prémunir contre ces raccourcis qui sont des falsifications, au fond, de ce qui se passe dans notre société. Les plus grands massacres du XXe et du XIXe siècle n'ont pas de connotation religieuse. Enfin, je veux dire, le nazisme et le communisme stalinien, le communisme maoïsme, c'était pas des religions là, qui étaient en cause, c'était bien des projets politiques. Et de la même façon, d'ailleurs, les attentats qui ont ravagé l'Europe et le monde depuis 1995 jusqu'à tout récemment sont des attentats qui certes se revendiquent de l'islam, vous le savez bien, mais dont les musulmans eux-mêmes disent qu'il ne s'agit pas de l'islam, mais bien d'un projet politique qui naît sur cette terre-là, ou dans ce contexte idéologique-là, mais qui n'est pas un message religieux recevable. Donc à chaque fois, il faut, vous voyez, décrypter, recadrer, reproposer une interprétation intelligente de ce qui advient, pour essayer de valoriser à chaque fois, et je vous remercie beaucoup pour votre question, valoriser à chaque fois ce projet du religieux qui est non pas simplement de relier les hommes entre eux, parce que ça tout le monde veut le faire, mais de nous apprendre à relire, parce que c'est ça la religion, relire, reléguerer, relire ensemble les textes anciens, et peut-être, dernière interprétation dont l'étymologie me plaît aussi, prendre tout cela avec beaucoup de recul et de scrupules. C'est le fameux relégaré de Cicéron, vous savez, la religion comme moment tellement précieux et en même temps peut-être potentiellement douloureux, dangereux, qu'il faut y aller tout doucement, lentement et avec beaucoup de prudence. C'est à ça que j'appelle, et c'est pour ça que je prône une laïcité décontractée, apaisée, une laïcité qui puisse entendre ce discours selon lequel les religions sont porteuses d'une promesse et d'une bénédiction.